Aristote, Morale à Eudème, livre 7, chapitre 13 à 15. Chapitre 13. Sommaire. Digression sur l'usage essentiel et sur l'usage indirect des choses. On peut, jusqu'à certains points, abuser également des facultés de l'âme. Lacune et désordre dans le texte. Paragraphe 1. Une question d'un autre ordre qu'on peut élever, c'est de savoir s'il est possible tout à la fois et d'employer une chose à l'usage qui lui est naturellement propre et de l'employer aussi à un autre usage. En d'autres termes, s'il est possible de s'en servir en soi et de s'en servir indirectement. Je prends l'exemple de l'œil. Il est d'abord possible de l'employer pour voir, et même en l'employant ainsi, de le contourner de façon à fausser la vision et à voir deux objets au lieu d'un. Ce sont déjà là deux usages de l'œil. L'un en tant qu'il est œil, et l'autre en tant que cet usage peut être encore celui de l'œil. Ainsi, il y a un autre emploi des choses qui est tout indirect. Et ce serait par exemple, pour l'estomac, tantôt de vomir et tantôt de manger. Paragraphe 2. Je pourrais faire une remarque semblable pour la science. Ainsi, il est possible de s'en servir tout à la fois et d'une façon exacte et d'une façon erronée. Tout en sachant bien écrire, on peut vouloir de son plein gré écrire mal. Et la science, alors, ne sert pas plus que l'ignorance. On dirait de ces danseuses qui, changeant l'emploi habituel de la main, font de leurs pieds des mains et de leurs mains des pieds. Paragraphe 3. À ce compte, si toutes les vertus ne sont que des sciences, comme on l'a dit, il serait possible d'employer la justice en guise de l'injustice. Par justice, on ferait des iniquités, comme tout à l'heure par la science, on ne faisait que des choses d'ignorance. Mais si c'est là une impossibilité manifeste, il n'est pas moins évident que les vertus ne sont pas des sciences ainsi qu'on le prétend. Si, quand on dévoie ainsi la science, on ne fait pas réellement œuvre d'ignorance, et si l'on commet seulement une faute volontaire, que l'ignorance pourrait bien commettre aussi sans le vouloir, il ne se peut pas davantage qu'on agisse par justice comme on agirait par iniquité. Mais si la prudence est réellement une science, elle produira quelque chose de vrai comme la science, et elle commettra tout aussi bien qu'elle des erreurs volontaires, car il se pourrait que par prudence on agit imprudemment et qu'on commit précisément toutes les fautes que l'imprudent commettrait. Mais si l'usage de chaque chose était absolument simple et qu'on ne pût employer une chose qu'en tant qu'elle est ce qu'elle est, on ne pourrait agir que prudemment en faisant usage de la prudence. Paragraphe 4. Pour toutes les autres sciences, il y a toujours une science supérieure qui détermine la direction principale des sciences subordonnées. Mais quelle est la science qui dirige cette science souveraine elle-même ? Ce n'est certes plus la science ou l'entendement. Ce n'est pas davantage la vertu, car cette maîtresse science emploie la vertu elle-même, puisque la vertu de l'être qui commande, c'est de faire usage de la vertu de l'être qui obéit au commandement. Paragraphe 5. Encore une fois, quelle est donc cette science régulatrice ? En est-il ici, comme quand on dit que l'intempérance est un vice de la partie irrationnelle de l'âme, et que l'intempérant, dont la raison sait ce qu'il fait, descend au niveau du débauché, qu'il ignore. Quand le désir est par trop violent, il bouleverse la raison, qui pense alors tout le contraire de ce qu'elle devrait penser. Il est donc clair que si la vertu est dans cette partie de l'âme, et que l'ignorance soit dans la partie déraisonnable, les autres fonctions sont également renversées. On pourra, dès lors, employer la justice avec iniquité et pour faire le mal. On emploiera la prudence pour agir imprudemment. Mais par suite, le contraire ne sera pas moins possible. En effet, si l'on suppose que le vice, en pénétrant dans la raison, puisse changer la vertu qui réside dans la partie rationnelle de l'âme et la pousser à l'ignorance, il serait bien étrange que la vertu, à son tour, ne changeât pas l'ignorance qui est dans la partie déraisonnable et ne la forçât pas de penser prudemment et d'accomplir le devoir. Réciproquement, la prudence qui est dans la partie raisonnable forcera la débauche, qui est dans la partie irrationnelle, à se conduire prudemment et avec modération, et à devenir ce qu'on nomme la tempérance. Par conséquent, l'ignorance deviendrait prudente et sage. Paragraphe 6. Mais toutes ces théories sont insoutenables, et il est surtout absurde de croire que jamais l'ignorance puisse être sage et prudente. Nous ne voyons rien de pareil ailleurs. Et la débauche fait oublier et bouleverse tous les conseils de la médecine, et dans l'occasion, toutes les règles de la grammaire. Ainsi donc, l'ignorance, si elle est contraire, comme il n'y a pas la supériorité, mais la vertu se rapportera plus au vice ainsi constitué. C'est qu'au fond, l'homme injuste peut tout ce que peut l'homme juste, et d'une manière générale, la puissance de ne pas faire est comprise dans la puissance de faire. Paragraphe 7. Nous pouvons donc conclure que seuls les facultés de la partie raisonnable de l'âme sont tout à la fois prudentes et bonnes, et que Socrate avait bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus fort que la prudence. Mais il n'était plus dans le vrai quand il disait qu'elle est une science. Elle est une vertu et non une science. Et la vertu est une espèce de connaissance toute différente de la science proprement dite. Remarque, ici le texte se termine. Chapitre 14. Sommaire. Du bonheur qui ne tient qu'au hasard. Examen de cette question, de savoir s'il y a des gens qui sont naturellement heureux et malheureux. On ne peut nier qu'il n'y ait des gens qui réussissent contre toute raison et malgré leur incapacité. Argument en sens contraire. On ne doit pas tout attribuer au hasard, mais on ne doit pas non plus lui dénier toute influence. Souvent, on fait sans raison, sans habileté, tout ce qu'il faut pour réussir. C'est une heureuse impulsion de la nature qui fait agir. Il ne faut pas aller jusqu'à rapporter au hasard la volonté et la réflexion dans l'homme. Influence de l'élément divin dans l'âme humaine, le succès qu'assure la raison et l'intelligence est le seul qui puisse être solide et durable. Paragraphe 1. Ce n'est pas seulement la prudence, ni même la vertu qui fait le succès. Et souvent, on parle du succès de gens que le hasard seul favorise, comme si un heureux hasard pouvait faire réussir les hommes tout aussi bien que la science, et leur assurer les mêmes avantages. Il nous faut donc rechercher s'il est vrai, en effet, que tel homme soit naturellement heureux et tel autre malheureux, et savoir ce qu'il en est réellement à cet égard. Paragraphe 2. On ne peut nier qu'il y ait des gens qui ont vraiment du bonheur. Ils ont beau faire des folies, tout leur réussit dans des choses qui dépendent uniquement du hasard. Ils réussissent même encore dans des choses qui sont soumises à des règles certaines, mais où la fortune a cependant une grande part, comme l'art de la guerre et l'art de la navigation. Paragraphe 3. Ces gens réussissent-ils parce qu'ils ont certaines facultés? Ou bien leur prospérité ne tienne-t-elle absolument en rien à ce qu'ils sont personnellement? On croit assez généralement que c'est à la nature qui les a faits d'une certaine manière qu'il faut rapporter cette aveugle faveur. Ainsi, la nature, en faisant les hommes ce qu'ils sont, établit entre eux dès le moment même de leur naissance des différences profondes, donnant aux uns des yeux bleus, aux autres des yeux noirs, parce que tel organe est de telle façon plutôt que de tel autre. Tout de même, dit-on, la nature fait les uns heureux et les autres malheureux. Paragraphe 4. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas la prudence qui fait le succès des gens dont nous parlons. La prudence n'est pas déraisonnable. Elle sait toujours la raison de ce qu'elle fait. Mais quant à eux, ils seraient bien incapables de dire comment ils réussissent. Car ce serait de l'art et de la science, et ils ne peuvent s'élever jusque-là. Paragraphe 5. J'ajoute que leur incapacité est de toute évidence, et je ne dis pas seulement pour les autres choses, car il n'y aurait en cela rien d'étonnant. Comme il est tout simple qu'un grand géomètre, un Hippocrate, inhabile et ignorant dans tout le reste, ait perdu, dans un voyage, par suite de la naïveté qu'on lui prête, une somme considérable avec ceux qui prélèvent le 50e à Byzance. Mais je dis que ces gens si heureux sont notoirement insensés dans les choses mêmes qui leur réussissent si bien. Paragraphe 6. En fait de navigation, ce ne sont pas les plus habiles qui sont heureux. Mais parfois, c'est comme un jeu de dés où l'un n'amène rien, tandis que l'autre amène un coup qui prouve bien qu'il est naturellement heureux, ou qu'il est aimé du ciel, comme on dit, ou en un mot, que c'est une cause toute extérieure à lui qui assure son succès. Ainsi, souvent, un mauvais navire fait une plus heureuse traversée qu'un autre, non pas à cause de ce qu'il est, mais uniquement parce qu'il a un bon pilote. Et si ce fou réussit, c'est qu'il a pour lui le destin, qui est un pilote excellent. Paragraphe 7. J'avoue qu'on peut s'étonner à bon droit que Dieu ou le destin aime un homme de cette sorte plutôt que l'homme le plus honnête et le plus prudent. Mais si, pour que les imprudents réussissent, il faut nécessairement ou la nature, ou l'intelligence, ou une protection étrangère, et que ce ne soit aucune de ces deux dernières influences, il reste que ce soit la nature seule qui fasse le bonheur de ces gens-là. Paragraphe 8. Or, la nature est la cause de cette suite de phénomènes qui arrivent toujours de la même façon, ou qui du moins arrivent le plus ordinairement de telle façon plutôt que de telle autre. Mais le hasard est précisément tout le contraire, et quand on réussit contre toute raison, c'est au hasard qu'on l'attribue. Puisque c'est le hasard seul qui vous favorise, on ne peut plus rapporter votre bonheur à cette cause qui produit des phénomènes immuables, ou du moins, les phénomènes les plus ordinaires et les plus constants. Paragraphe 9. D'autre part, si l'on réussit parce qu'on est organisé de telle manière, de même que celui qui a les yeux bleus n'a pas en général une vue perçante, alors ce n'est plus le hasard qui est cause de votre bonheur, c'est la nature. Et il faut dire, non pas que le hasard, mais que la nature vous a favorisé. Par conséquent, il faut avouer que les gens dont on dit que le hasard les favorise ne sont pas vraiment favorisés par le hasard. Ils ne lui doivent rien en réalité. Et l'on ne doit attribuer au hasard que les biens dont en effet un heureux hasard est la seule cause. De là, faut-il conclure qu'il n'y a pas de hasard du tout dans les choses humaines, ou bien que s'il y en a un, il n'est absolument cause de quoi que ce soit. Non, sans doute. Nécessairement, le hasard existe, et il est nécessairement cause de certaines choses. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il est pour certaines gens une cause de bien ou une cause de mal. Paragraphe 10. Si l'on veut supprimer complètement l'influence du hasard et soutenir qu'il ne fait rien dans ce monde, et que c'est parce que nous ne voyons pas une autre cause, toute réelle qu'elle est, que nous attribuons au hasard le fait que nous ne pouvons comprendre, on peut alors définir le hasard comme une cause dont la raison se dérobe à la raison humaine. Et l'on en fait ainsi, en quelque sorte, une véritable nature. Dès lors, une autre question s'élève d'après cette hypothèse même. Et l'on peut demander si le hasard a favorisé ces gens une première fois, pourquoi ne dirait-on pas que c'est lui qui les favorise encore une autre, puisqu'ils ont également prospéré. Un même succès devrait avoir une même cause. Paragraphe 11. Le succès pour eux ne viendra donc pas de la fortune, si ce n'est quand le même succès se répète dans des choses où les chances sont infinies et indéterminées. Ce sera sans doute du bien ou du mal. Mais il ne sera point possible de le savoir, précisément à cause de l'infinité même. Car si c'était de la science, les gens apprendraient à être heureux. Et toutes les sciences, comme le disait Socrate, ne seraient plus au fond que d'heureux hasards. Paragraphe 12. Où serait donc l'obstacle que le même succès arrive plusieurs fois de suite à la même personne? Non pas parce qu'il y aurait nécessité, mais parce que ce serait comme si l'on avait la chance de toujours faire tomber les dés sur le bon côté. Et quoi? N'y a-t-il donc pas dans l'âme de l'homme des tendances qui viennent les unes de la réflexion raisonnée, les autres, et celles-là sont les premières de toutes, d'un instinct sans raison? Si c'est un instinct naturel de désirer ce qui nous plaît, tout dès lors devrait naturellement aboutir au bien. Paragraphe 13. Si donc il y a des gens qui ont une heureuse organisation et qui, par exemple, sont naturellement chanteurs, sans d'ailleurs savoir chanter. De même, il y a des gens qui, par une faveur de la nature, réussissent sans le secours de la raison. La nature seule les conduit. Et, sachant désirer les choses qu'il faut désirer, dans le moment et dans toutes les conditions de temps et de lieu, et de la façon qu'il les faut désirer, ils réussissent, tout inhabiles, tout dépourvus de raison qu'ils peuvent être, aussi bien que pourraient le faire ceux qui sont en mesure de donner aux autres des leçons de conduite. Ainsi, l'on doit dire que les gens ont du bonheur quand ils réussissent, dans la plupart des cas, sans que la raison entre pour rien dans leur succès. Et les gens heureux de cette façon le sont par le seul fait de la nature. Paragraphe 14. Du reste, quand on parle de heureux hasard, de bonheur, il faut bien savoir que ce mot a plusieurs sens. Il y a des choses que l'on fait à la fois et par simple instinct et par réflexion bien arrêtée de les faire. Il en est d'autres que l'on fait au contraire tout différemment. Si dans les dernières on réussit, tout en ayant mal calculé, nous disons que c'est du bonheur. Ainsi que dans les cas où l'on aurait certainement moins bien réussi en calculant. Paragraphe 15. Il se peut donc que ces gens-là ne doivent leur bonheur qu'à la nature, par leur instinct et leur désir, en s'appliquant à ce qu'il fallait, ont réussi. Mais leur calcul n'en était pas moins puéril et absurde. Ce qui les a sauvés, c'est que leur calcul avait beau être faux, la cause qui avait provoqué ce calcul, à savoir l'instinct, était juste, et qu'elle a, par sa justesse, sauvé l'imprudent. Il est vrai que, d'autres fois, c'est le désir également qui a inspiré le calcul, et qu'on n'en a pas moins échoué. Paragraphe 16. Mais dans les autres cas, comment peut-on admettre que le succès tienne uniquement à l'heureuse direction que la nature a donnée à l'instinct et au désir? Si tantôt le bonheur et le hasard sont deux choses différentes et que tantôt ils se confondent, il faut admettre qu'il y a plusieurs genres. Paragraphe 17. Mais comme on voit chaque jour des gens réussir contre toutes les règles de la science et contre les prévisions les plus raisonnables, il faut bien supposer qu'il y a une autre cause à leur prospérité. Est-ce ou n'est-ce pas ce qu'on appelle du bonheur, une faveur de la fortune, lorsque le raisonnement de l'homme n'a désiré que ce qu'il fallait désirer et au moment où il le fallait? Le succès ne saurait être pris pour une faveur, car le calcul qu'on a fait n'a pas été du tout dénué de raison. Le désir n'a pas été purement naturel, et si l'on ne réussit point, c'est que quelque cause vient vous faire échouer. Paragraphe 18. Si l'on croit devoir attribuer le succès à la fortune, c'est qu'on rapporte à la fortune tout ce qui se passe contre les lois de la raison. Et ce succès en particulier était contre les raisons et contre le cours ordinaire des choses. Mais, ainsi qu'on a essayé de le faire voir, il ne vient pas réellement de la fortune, du hasard, et c'est seulement une apparence trompeuse. Paragraphe 19. C'est que toute cette discussion ne tend pas à prouver qu'on a de bonheur que par les faits de la nature. Elle prouve seulement que ceux qui semblent en avoir ne réussissent pas toujours par suite d'un aveugle hasard, mais aussi par l'action de la nature. Cette discussion ne tend pas davantage à démontrer que le hasard n'est jamais cause de rien en ce monde, mais seulement qu'il n'est pas cause de ce qu'on lui attribue. Paragraphe 20. Il est vrai qu'on peut aller plus loin et demander si ce n'est pas encore le hasard qui fait qu'on désire les choses au moment où il faut les désirer, et de la façon qu'il faut. Mais alors, n'est-ce pas rendre le hasard maître absolu de, puisqu'on le rend maître, et de l'intelligence et de la volonté? On a beau réfléchir et calculer, on n'a pas calculé de calculer avant de calculer. Et c'est un principe autre qui vous a fait agir. On n'a point pensé à penser avant de penser. Et ceci sans fin. À ce compte, ce n'est plus la pensée qui est le principe qui fait qu'on pense. Ce n'est plus la volonté qui est le principe qui fait qu'on veut. Que reste-t-il donc désormais si ce n'est le hasard? Ainsi, Tout viendra et dépendra uniquement du hasard, s'il est en effet un principe universel, en dehors duquel il ne saurait en exister aucun autre. Paragraphe 21. Mais pour cet autre principe lui-même, il est possible encore de demander pourquoi il est fait de telle sorte qu'il puisse faire tout ce qu'il fait. Or, cela revient à demander quel est dans l'âme le principe du mouvement qui l'a fait agir. Il est parfaitement évident que Dieu est dans l'âme de l'homme, comme il est dans l'univers entier, car l'élément qui est en nous est, on peut dire, la cause qui met toutes choses en mouvement. Paragraphe 22. Or, le principe de la raison ne peut être la raison même, c'est quelque chose de supérieur. Mais que peut-il y avoir de supérieur à la science et à l'entendement si ce n'est Dieu lui-même? La vertu demande de l'entendement. Et voilà comment les anciens ont pu dire « Il faut reconnaître que les gens ont du bonheur quand ils réussissent malgré leur déraison évidente et quand ce serait un danger pour eux de calculer ce qu'ils font. Ils ont en eux un principe qui vaut mieux que tout l'esprit et toutes les réflexions du monde. » Paragraphe 23. D'autres ont raison pour se guider, mais ils n'ont pas ce principe qui mène les gens heureux au succès. L'enthousiasme même, quand ils le ressentent, ne les fait pas réussir, tandis que les premiers réussissent, tout déraisonnables qu'ils sont. Même chez les gens réfléchis et sages, qui voient d'un coup d'œil, et comme par une sorte de divination ce qu'il faut faire, ce n'est pas exclusivement à leur raison qu'ils font rapporter cette décision si sûre et si prompte. Chez les uns, c'est la suite naturelle de l'expérience. Chez les autres, c'est l'habitude d'appliquer ainsi leur faculté à la réflexion. Ce sont là des privilèges qui n'appartiennent qu'à l'élément divin qui est en nous. C'est lui qui voit si nettement ce qui doit être, ce qui est, et tout ce qui reste encore obscur pour notre raison impuissante. C'est là ce qui fait que les mélancoliques ont des songes et des visions si précises. Une fois que la raison a disparu en eux, ce principe semble y prendre d'autant plus de force. Et c'est comme les aveugles, dont la mémoire est en général beaucoup meilleure, parce qu'ils sont exempts de toutes les distractions que causent les perceptions de la vue, et qu'ainsi ils gardent mieux le souvenir de ce qu'on leur a dit. Paragraphe 24. Ainsi, évidemment, on peut distinguer deux sortes de bonheur. L'un est divin, et l'homme qui a ce prix semble réussir par une faveur spéciale de Dieu. Il va droit au but, en se conformant uniquement à l'impulsion de l'instinct qui le mène. L'autre réussit en agissant contre l'instinct, et tous deux sont également dénués de raison. Le bonheur qui vient de Dieu peut davantage y continuer, tandis que l'autre ne se continue jamais. Chapitre 15. Sommaire. De la beauté morale et de la vertu prise dans son ensemble et dans sa perfection. Il faut distinguer moralement entre les choses qui sont simplement bonnes et celles qui, outre qu'elles sont bonnes, sont belles et dignes de louange. Conditions de la beauté morale, limites dans lesquelles le sage doit se renfermer. Toute la conduite morale de l'homme doit être Dieu et à le contempler. Fin de ce traité. Paragraphe 1. Dans tout ce qui précède, nous avons traité de chaque vertu en particulier et nous avons expliqué séparément le caractère et la valeur de chacune d'elles. Maintenant, il nous faut analyser avec le même détail la vertu qui se forme de la réunion de toutes les autres et que nous avons appelée par excellence l'honnêteté, la parfaite vertu, aussi belle qu'elle est bonne. Paragraphe 2. D'abord, il faut reconnaître que, quand on mérite réellement ce beau titre d'honnête homme, c'est que nécessairement on possède aussi toutes les autres vertus particulières. Dans tout autre ordre de choses, il en est absolument de même. Par exemple, il serait bien impossible d'avoir l'ensemble du corps parfaitement sain si aucune partie n'en était saine. Il faut, de toute nécessité, que toutes les parties du corps, ou du moins la plupart d'entre elles, et les plus importantes, soient dans le même état que l'ensemble. Paragraphe 3. Être bon et être parfaitement honnête et vertueux, ce ne sont pas seulement des mots différents, ce sont encore des choses qui, en soi, sont différentes. Tout ce qui est bon a toujours un but désirable uniquement par lui-même. Mais il n'y a de beau et d'honnête parmi les biens que ceux qui, étant déjà désirables en soi, sont en outre dignes d'estime et de louange. Paragraphe 4. Ce sont les biens dont les conséquences dans les actions qu'ils inspirent sont aussi louables qu'eux-mêmes. Ainsi, la justice, louable en soi, ne l'est pas moins par les actes qu'elle nous fait faire. Les gens prudents méritent nos éloges, parce que la prudence aussi les mérite. La santé, au contraire, ne provoque pas notre estime, non plus que les conséquences qu'elle produit. Un acte de force ne l'obtient pas davantage parce que la force n'en est pas digne. Ce sont là des choses fort bonnes, sans doute, mais elles ne méritent pas notre estime et nos louanges. Paragraphe 5. On pourrait, si on le voulait, vérifier cette théorie par induction dans tous les autres cas. Le seul homme qu'il faille appeler bon est donc celui pour qui restent bonnes réellement les choses qui de leur nature sont bonnes. En effet, les biens qui sont les plus disputés et qui semblent les plus grands de tous, la gloire, la richesse, les qualités du corps, les succès, le pouvoir, sont des biens par leur nature. Mais ils peuvent aussi être nuisibles pour quelques individus, à cause des dispositions où ces individus se trouvent. Un fou, un coquin, un libertin n'en saurait tirer aucun profit, pas plus qu'un malade ne pourrait prendre avec avantage pour lui le repas d'un homme en pleine santé, pas plus qu'un corps chétif ou mutilé ne saurait bien porter le vêtement d'un corps vigoureux et complet. Paragraphe 6. On est moralement beau et vertueux, c'est-à-dire parfaitement honnête, quand on ne recherche les biens qui sont beaux que pour eux-mêmes et qu'on pratique les belles actions exclusivement parce qu'elles sont belles. Et j'entends par belles actions la vertu et tous les actes que la vertu inspire. Paragraphe 7. Mais il y a une autre disposition morale qui dirige parfois les cités et qu'il convient de signaler. On la trouve chez les Spartiates et d'autres peuples pourraient bien la voir à leur exemple. Cette disposition morale consiste à croire que s'il faut avoir la vertu, c'est uniquement en vue de ces biens qui sont les biens de nature. Cette conviction en fait certainement des hommes vertueux, car ils possèdent les biens selon la nature. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient la beauté morale dans toute sa perfection. Ils n'ont pas les vertus qui sont belles essentiellement et en soi. Ils ne cherchent pas à être beaux moralement en même temps que vertueux. J'ajoute que non seulement ils sont incomplets sous ce rapport, mais que de plus, des choses qui ne sont pas naturellement belles et qui ne sont que naturellement bonnes deviennent belles à leurs yeux. Paragraphe 8. Les choses qu'on fait ne sont vraiment belles que quand on les fait et qu'on les recherche en vue d'une fin qui est belle aussi. Voilà pourquoi ces biens naturels ne deviennent vraiment beaux que dans l'homme qui possède la beauté morale. Or, le juste est beau, et le juste, c'est ce qui est en proportion du mérite. Mais l'homme honnête, dans le sens que nous indiquons ici, mérite tous ses biens. Paragraphe 9. On peut dire encore que le convenable est beau. Or, il convient que l'homme doué de toutes ses vertus ait la fortune, la naissance, le pouvoir. Tous les biens de cet ordre sont à la fois utiles et beaux pour l'homme qui possède la beauté morale et la vertu parfaite, tandis que tous ces avantages sont déplacés dans la plupart des autres hommes. Les biens qui sont bons en soi ne sont pas bons pour eux. Ils ne sont bons que pour l'homme de bien, et ils deviennent des beautés dans l'individu qui est moralement beau, car c'est avec leur aide qu'il fait sans cesse les actions qui, en soi, sont les plus belles du monde. Paragraphe 10. Celui, au contraire, qui s'imagine qu'il ne faut avoir les vertus que pour acquérir les biens extérieurs, ne fait de belles actions qu'indirectement. Ainsi donc, la beauté morale, l'honnêteté, est la seule vertu vraiment accomplie. Paragraphe 11. En parlant du plaisir, ce qu'il est, et l'on a expliqué comment il est bon. Il a été prouvé que les choses absolument agréables sont belles aussi, et que les choses absolument bonnes sont également agréables. Le plaisir ne se trouve point ailleurs que dans l'action. Par suite, l'homme véritablement heureux vivra dans le plus vif plaisir. L'opinion commune à cet égard ne se trompe pas. Paragraphe 12. Mais, de même que pour le médecin, il y a une mesure précise à laquelle il se réfère pour juger le médicament qui doit guérir le corps malade ou celui qui ne le guérirait pas, et pour décerner le traitement qu'il faut appliquer dans chaque cas et la vraie dose en deçà et au-delà de laquelle il n'y a pas de guérison à espérer, de même aussi, pour l'homme vertueux, il faut bien qu'il y ait, pour ses actes et ses préférences, une règle qui lui apprenne jusqu'à quel point il doit rechercher les choses qui, bonnes par nature, ne sont pas cependant dignes d'estime. Quelle est la disposition morale dans laquelle il doit se maintenir et la mesure qu'il doit observer dans ses désirs afin de ne pas rechercher avec excès soit l'accroissement, soit la restriction de sa fortune et de ses prospérités. Paragraphe 13. Plus haut, nous avons dit qu'en ceci, la vraie limite est celle qu'indique la raison. Mais c'est comme si l'on disait qu'il faut prendre pour règle de son alimentation celle que prescrit le médecin et la raison éclairée par ses conseils. Ce serait là sans doute une recommandation vraie, mais elle serait trop peu claire. Paragraphe 14. Il faut ici, comme dans tout le reste, ne vivre que pour la partie de nous qui commande. Il faut organiser sa vie et sa conduite sur l'énergie propre à cette partie supérieure de nous-mêmes. comme l'esclave, règle toute son existence en vue de son maître et comme chacun doit le faire en vue du pouvoir spécial auquel son devoir le soumet. Paragraphe 15. L'homme aussi se compose par les lois de la nature de deux parties, dont l'une commande et l'autre obéit, et chacune d'elles doit vivre selon le pouvoir qui lui est propre. Mais ce pouvoir lui-même est double aussi. Par exemple, autre est le pouvoir de la médecine, autre est celui de la santé. Et c'est pour la seconde que travaille la première. Ce rapport se retrouve dans la partie contemplative de notre être. Ce n'est pas Dieu, sans doute, qui lui commande par des ordres précis, mais c'est la prudence qui lui prescrit le but qu'elle doit poursuivre. Or, ce but suprême est double, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs, parce que Dieu n'a besoin de rien. Paragraphe 16. Nous nous bornerons à dire ici que le choix et l'usage, soit des biens naturels, soit des forces de notre corps ou de nos richesses ou de nos amis, en un mot, de tous les biens, seront d'autant meilleurs qu'ils nous permettront davantage de connaître et de contempler Dieu. C'est là, sachons-le, notre condition la meilleure. C'est la règle la plus sûre et la plus belle. Et la condition la plus fâcheuse à tous ses égards est celle qui, soit par excès, soit par défaut, nous empêche de servir Dieu et de le contempler. Paragraphe 17. Or, l'homme a cette faculté dans son âme, et la meilleure disposition de son âme est celle où il sent le moins possible l'autre partie de son être en tant qu'elle est inférieure. Voilà ce que nous avions à dire sur la fin dernière de la beauté morale et de l'honnêteté et sur le véritable emploi que l'homme doit faire des biens absolus. Fin de la morale à Eudème.